Bonjour à tous, bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter, au sommaire de l'émission jusqu'à 14h. Retour sur la semaine avec le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann, suivi du débat. L'offensive des forces armées syriennes et russes se poursuit contre la Ghouta dans la banlieue de Damas. Des lignes rouges aussitôt tracées, aussitôt franchies. Faut-il intervenir militairement et au nom de quels principes? Y a-t-il des guerres humanitaires? Pour en débattre, notre invité sera l'ancien président de Médecins Sans Frontières, le docteur Ronnie Broman, nous rejoindra dans une quinzaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et premier sujet à l'ordre du jour de votre duel. Cette situation toujours très tendue à Mayotte, grève générale, des manifestations quasiment quotidiennes pour protester notamment contre l'insécurité. Le président du Parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, était en déplacement cette semaine à Mayotte et il fustigeait l'action du gouvernement.
Personne ne mesure ce qui est en train de se passer sur l'île de Mayotte. Ce dont on parle, c'est d'attaques à la machette contre des gens qui sont sortis de leur voiture pour leur voler leur téléphone portable. Ce dont on parle, c'est de maisons dans lesquelles les gens sont obligés de se barricader parce qu'à partir de 20h le soir, on ne peut plus sortir. Ce dont on parle, c'est d'une île qui est submergée par une immigration clandestine massive dans laquelle un habitant sur trois est un immigré clandestin. On a des gens qui viennent à Mayotte juste pour accoucher parce qu'ensuite, l'enfant prend le droit du sol et devient français. Ça veut dire que sur l'île de Mayotte, quand un enfant naît à Mayotte, mais qu'il a deux parents clandestins, c'est pas possible de lui donner la nationalité française parce que sinon on n'arrive plus à gérer.
Laurent Wauquiez, donc, à propos de Mayotte, est un concentré de problèmes dans ce département, Natacha, qui concerne l'ensemble de la République.
Bien sûr, vous qui devrez concerner l'ensemble de la République, et ça nous pose un problème absolument majeur, qui est celle du statut de ces territoires, de ces départements d'outre-mer, dont on a l'impression qu'ils sont la France, mais peut-être pas tout à fait la France, ou qu'on a oublié pour comment ils sont la France. Parce que pour Mayotte, il faut le rappeler que si Mayotte est aujourd'hui un département français, c'est parce qu'il y a eu un référendum. Un référendum en 1974. Et évidemment, il y a un problème sur le statut de ce référendum, à savoir que à l'époque, le territoire de Mayotte qui avait voté pour rester dans la France, alors que le reste des Comores avait voulu se détacher, donc le territoire de Mayotte a été en quelque sorte différencié des Comores, ce qui déjà pose un problème quand on réfléchit à la question du pourtour d'exercice sur un référendum, de la question de savoir à qui on pose une question, quelle est l'entité à laquelle on s'adresse et qui répond à cette question politique posée.
Mais aujourd'hui, c'est
et
un
là,
département.
Aujourd'hui, c'est un département.
De
c'est
la
un
République française.
Il faudrait peut-être l'assumer. Et là, c'est tout le problème. Sauf que c'est un problème extrêmement complexe puisque la différence majeur de niveau de vie entre Mayotte et les Comores fait que l'application du droit républicain devient quelque chose qui nécessiterait des investissements énormes, sauf qu'il faut l'assumer. Mayotte est désormais un département.
Raphaël Glucksmann.
Ouais, Mayotte, c'est la France. Alors, si c'est la France, la solution ne peut pas être de remettre en cause le droit français appliqué à Mayotte, comme le propose Laurent Wauquiez. Si Mayotte, c'est la France, alors il va falloir trouver une solution sans abolir le droit du sol, puisque c'est le droit qui vaut sur le territoire de la France. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nier qu'il y a un immense problème d'immigration clandestine. Mais si c'est la France, Mayotte, alors on ne peut pas laisser les Mahorais et Mayotte faire face seuls à un défi qu'ils ne peuvent absolument pas relever. Par exemple, on parle de 4000 mineurs isolés, abandonnés par leurs parents, Comoriens, clandestins, qui sont livrés à eux-mêmes et qui participent à cette vague d'insécurité. Eh bien, moi, je pense que si Mayotte ne peut pas faire face à cela seule, la France, à l'échelle de la République française, peut tout à fait faire face à un défi comme celui-là.
Hors de question de revenir sur le droit du sol et l'accès à la nationalité française pour vous. Est-ce que vous partagez son avis, Natacha Polony?
Pas tout à fait. Je pense qu'il va falloir, à un moment donné, se poser cette question-là, dans la mesure où...
Elle est posée aujourd'hui, on entendait Laurent Wauquiez
voilà,
tout à l'heure, on parlait très clairement.
Elle se pose notamment quand on voit l'état de la maternité de Mayotte comme l'état de la maternité de Guyane, il y a un réel problème. Alors, simplement, je pense que ce n'est pas, ça ne réglera pas tout. tout de tout simplement dire on va abolir le droit du sol. C'est pas ça le problème. Et je pense pas qu'il faille abolir. En revanche, il va falloir se poser la question de son fonctionnement et des limites qu'on peut y mettre dans le cadre, là aussi, d'une réflexion sur la façon dont on accompagne ensuite tous ces mineurs isolés, la façon dont on aide toute la population à faire face. C'est pas tout seul le droit du sol. Ça n'est pas une solution seule. Mais je pense qu'il ne faut pas s'interdire de réfléchir à ça.
Mais vous voyez bien le problème, c'est-à-dire qu'on explique que ce sont des territoires français, qu'ils sont traités malheureusement de manière différente, et donc on va faire un droit différent pour la Mayotte aujourd'hui, la Guyane demain, la Martinique ensuite, et finalement pourquoi pas certaines régions françaises ensuite, à la demande de certains leaders. Moi je pense qu'il faut garder un droit unique, mais que si Mayotte c'est la France, alors il va falloir que la France protège les côtes de Mayotte, et deuxièmement, se rendre compte que si Mayotte c'est la France, et ben la région la plus pauvre d'Europe, elle est française. Parce que la région la plus pauvre d'Europe, c'est Mayotte.
Mais c'est étonnant comme on peut poser la question à propos de Mayotte, qui est un département de la République française. Il serait inimaginable d'entendre le président d'une grande formation politique remettre en cause le droit du sol, l'accès à la nationalité française.
Mais il faut bien qu'il y ait encore un traitement différencié. C'est-à-dire que ce dont les Mayottais souffrent, c'est quoi? C'est qu'il y a moins d'investissement que pour le reste du territoire français sur l'école. Il y a moins d'investissement que pour le reste du territoire français sur un ensemble de services publics. Et par ailleurs, ils nous demandent de les considérer comme des Français. C'est ça les manifestations. Vous n'accepteriez pas qu'une telle situation ait lieu ailleurs sur le territoire de France. Or, dans ce cas-là, la réponse, ça peut pas être, on va vous faire un droit différent pour vous et chez vous, le droit du sol ne fonctionnera plus.
Laissez Natacha Polony vous répondre.
Je pense qu'il y a des aménagements qui doivent être faits et il faut se poser la question, non pas d'un
droit différencié.
Non, pas d'un droit différencié. Il faut réfléchir du coup globalement à l'extension qu'on donne au droit du sol, ce qui permettra de ne pas faire de droit différencié. Mais je pense que la question à laquelle sont confrontés aujourd'hui les habitants de Mayotte est celle aussi à laquelle sont confrontés les Italiens par rapport au reste de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on laisse en première ligne des gens en leur disant débrouillez-vous, nous avons des beaux principes. Jusqu'à ce que ça explose, nous gardons nos principes. En même temps, nous ne faisons rien pour que ces principes soit appliqué, débrouillez-vous. C'est inacceptable. Donc, il me semble qu'il faut affronter des questions qui se posent aussi bien en Guyane qu'à Mayotte ou dans des régions d'Europe, comme par exemple dans certaines régions d'Italie ou de Grèce, et qu'il faut essayer de comprendre comment on peut à la fois faire en sorte qu'il n'y ait pas d'appel d'air, qu'il n'y ait pas de possibilité.
Vous avez dit vous-même que le niveau de développement de Mayotte était tellement différent de celui des Comores, que donc l'abolition ou la mise entre parenthèses ou l'aménagement même du droit du sol, ça tarira pas le flux en soi.
Parce qu'il n'y a pas de réponse simple, il y a des réponses multiples. Il y a du développement pour les Comores, par exemple.
Et donc mettre en avant le thème du droit du sol, c'est quand même une remise en cause, ça vise à saper ce droit du sol en tant que tel. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut développer l'île, développer les moyens de protection, faire des accords avec les Comores pour que les Comores prennent leurs responsabilités. Mais si on peut réussir sans toucher à un principe fondamental de la République française, sans faire de Mayotte un territoire spécifique non plus, avec un droit différent, il faut essayer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas mis en œuvre les moyens et l'attention, même l'attention politique, pour que, sans renier nos principes, il y ait une situation vivable à Mayotte.
Mais on en parle probablement aujourd'hui parce qu'il y a des élections législatives partielles qui se profilent et que
générale,
du coup, d'autres en politique en font un enjeu national.
Mais ce qui est bien dommage, c'est qu'on n'en parle que maintenant, parce que le problème se pose depuis longtemps. Mais vous savez, Alain Juppé, qui n'est pas particulièrement un affreux populiste, considérait, et on avait parlé dans sa propre campagne lors des primaires, considérait qu'il fallait aménager le droit du sol pour Mayotte parce que nous sommes confrontés à une situation qui est en train de saper l'ensemble de nos principes républicains et ça pose un énorme problème.
Le duel continue.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Le duel.
Cette semaine, c'était aussi le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et on a entendu un député de la France insoumise, François Ruffin, à la tribune de l'Assemblée nationale prononcer ces mots.
Elles arrivent à 6h, elles repartent à 10h, à raison de 9€ de l'heure, leur paye s'élève à 600€ et quelques par mois. Tout le salaire minimum, tout sous le seuil de pauvreté. Notre Parlement, plein de raisonnement et de bons sentiments, s'accommode fort bien de cette injustice de proximité. Méfions-nous que cette société de service ne soit pas une société de servitude. Nous devons revaloriser les métiers largement occupés par des femmes, leur bâtir de réels statuts, leur garantir des revenus. d'autant qu'ils sont ces métiers bien souvent les plus utiles. Virez les publicitaires, virez les traders, virez les nuisibles, mais payez comme il faut les aides-soignantes, les infirmières, les auxiliaires de puériculture.
C'était la voix de François Ruffin. Raphaël Glucksmann, qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette intervention ?
Non, j'ai trouvé son intervention dans l'ensemble excellente et surtout vraiment bienvenue. Et justement, quand on parlait dans d'autres émissions du populisme, du danger populiste qui guette l'Europe, eh bien, le discours du député Ruffin, c'est du bon usage d'une forme de populisme. C'est-à-dire que...
Pourquoi du populisme ?
Non, d'interpeller les élites qui sont en train de travailler normalement au nom du peuple qui souffre. Et c'est ça l'essence même, à l'origine du mot populisme. Et c'est pour ça que dans populisme, qui est répété ad nauseam absolument partout, y compris par moi-même, il y a une forme d'incompréhension du terme, en fait. Et il y a une forme de gros mot qui veut tout dire et rien dire. Et donc là, ça nous montre qu'il y a une forme d'appel aux élites à prendre en compte la situation du peuple qui est absolument vitale pour une démocratie. Et que quand on lit dans les réactions à la tirade de Monsieur Ruffin sur Twitter que c'est du populisme, ben c'est du bon usage du populisme dans ce cas-là, si on qualifie ce terme ainsi. Et juste, ça me rappelle les lignes de Machiavel dans le discours sur la première décade de Tite-Live, qui pose la question, pourquoi est-ce que la République romaine a pu durer aussi longtemps et être aussi puissante ? Est-ce que c'est parce qu'elle était unie derrière son Sénat et son aristocratie, demande Machiavel. Non, c'est tout le contraire. C'est parce qu'elle a réussi à instituer la fonction des tribuns de la plèbe en son cœur et que donc elle a institué une voie qui contrôlait les élites en les interpellant, dont la fonction même des tribuns de la plèbe, c'était l'interpellation, violente même parfois, des élites. Et donc moi j'ai trouvé que là, et en d'autres occasions d'ailleurs, moi vous savez, je suis pas un fan absolu de Mélenchon, mais en d'autres occasions aussi, je trouve que Ruffin a rempli complètement son rôle de députés d'opposition, ce qui fait plaisir parce que on a souvent tendance à penser qu'il n'y a plus d'opposition en France.
Natacha Polony.
Je pense que non seulement cela doit nous obliger à employer avec parcimonie ce terme populisme, parce que c'est devenu une espèce de fourre-tout absolument insupportable, où on met en gros tout ce qui déplaît. C'est-à-dire que les populistes, ce sont les méchants. Ce sont ceux dont on ne veut pas entendre parler. Alors, il est en train de s'y ajouter un autre terme qui est complotiste. Parce que populiste, ça marche moins bien, donc on met complotiste maintenant. Mais tout cela, ça désigne l'adversaire idéologique. Or là, nous voyons bien qu'il existe, de la part de certains, une réflexion qui est tout à fait légitime sur la question de savoir comment on fait coïncider le peuple démos, c'est-à-dire le corps politique, avec le peuple comme classe sociale. Et comment on peut faire en sorte que tout cela se rejoigne et permette de défendre les intérêts de la majorité, du plus grand nombre et de ceux qui aspirent à se faire entendre face à un système qui est en train de maintenir son pouvoir. C'est en ça que c'est essentiel. Deuxième chose, juste, il n'est pas anodin que cela se passe donc à l'occasion de la journée de lutte pour les droits des femmes, qui a été transformée en une espèce de happening d'une nouvelle forme de lutte idéologique, où finalement on oublie totalement la question de la lutte des classes, où on oublie totalement les questions que François Ruffin vient rappeler ici, au nom d'une conception purement progressiste au sens le plus minimal et le plus triste de ce terme, qui consisterait à penser que la lutte pour les minorités, et en transformant les femmes en minorités dans ce cas-là, que la lutte pour les minorités suffirait à assurer l'avancée de la démocratie.
Pour comprendre, le hashtag MeToo a écrasé la lutte des classes.
Mais exactement. C'est bien un problème, quel que soit tout l'intérêt de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Oui, mais le problème, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a MeToo que ça empêche de parler de la lutte des classes. Moi, ce que j'ai trouvé très bien dans le discours de Ruffin au moment de la journée des droits des femmes, eh bien, c'était justement que les femmes qui sont en bas de l'échelle sociale, eh bien, tout d'un coup, reprenaient effectivement le devant de la scène.
Oui, c'est exactement ce que je dis.
Et moi, ce que j'appelle de mes voeux depuis le début du mouvement MeToo, c'est pas la fin d'un mouvement MeToo qui remplacerait la lutte des classes, mais c'est son extension, justement, aux couches les plus défavorisées et bien de la société française et des sociétés occidentales en général.
C'est tout le problème, c'est que ça ne peut s'étendre aux couches les plus défavorisées que si justement ça sort de cette rhétorique qui est la rhétorique de la lutte des minorités pour devenir une véritable lutte des droits.
C'est une lutte pour l'égalité, c'est pas la lutte des minorités.
Bien justement, je pense que si ça devient une lutte humaniste pour des droits et pour des droits économiques, sociaux et politiques. Là, ça permet d'inclure l'ensemble du peuple et en particulier celles qui en ont le plus besoin. Tandis que si c'est conçu sur le modèle des luttes des minorités contre le mâle blanc hétérosexuel,
mais je pense là, franchement que c'est dans votre vision, c'est quand même une lutte des minorités. C'est-à-dire que d'emblée, pour moi, MeToo, c'est un mouvement qui revendique l'égalité. Le problème sociologique qui se pose à ce mouvement, c'est que ça part d'abord d'une élite, en particulier des actrices, et que donc il faut que ça se diffuse. Et c'est pas une lutte qui se revendique lutte des minorités. Ça, c'est ce que vous calquez sur ce mouvement.
Pas du tout. Et c'est comme ça qu'elle procède. Et d'ailleurs, ça n'a pas échappé à une personne essentielle qui est Christiane Taubira, qui, dans une interview à Libération, a expliqué en effet qu'elle considérait que le féminisme devait adopter la forme de la lutte pour les minorités et que les hommes devaient faire l'expérience de la minorité. Il y avait toute une théorie sur le fait que finalement, les luttes raciales étaient plus importantes que les luttes féministes, mais que tout ça devait fonctionner de la même manière. Donc c'est parfaitement théorisé. En tout cas, elle le théorise, mais elle a théorisé quelque chose qui existe en fait.
Un mot, Raphaël ?
Non, je recadre, c'est une lutte pour l'égalité. Pour l'égalité, voilà, quand il y a une situation où la moitié de la population se retrouve dans une situation d'infériorité, de salariale, de...
Mais sauf qu'on n'a pas parlé d'infériorité salariale dans le mouvement MeToo, c'est autre chose, justement.
C'est
ce que Ruffin rappelle, c'est qu'il y a une essence qui est que les femmes ont 80% des emplois à temps partiel non choisis, que c'est elles qui sont dans la très grande pauvreté, qu'il n'y a aucune prise en compte des difficultés des familles monoparentales, or c'est elles les familles monoparentales. Voilà, ça c'est une véritable lutte qui est profonde, qui est essentielle et qui n'est absolument pas traitée.
L'un n'invalide pas l'autre. Il faut mener une lutte pour l'égalité qui soit réellement transversale dans la société.
On va en rester là sur le sujet, si vous le voulez bien, tous les deux. Le grand face-à-face de France Inter continue jusqu'à 14h avec maintenant le débat de la semaine.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
En Syrie, l'offensive se poursuit contre la Ghouta dans la banlieue de Damas. Signe des temps, on ne parle plus de devoir d'ingérence, mais de ligne rouge. Ligne rouge tracée dès 2012 par Barack Obama, quand il parlait de l'emploi d'armes chimiques par le régime syrien. Ligne rouge encore soulignée cette semaine par Emmanuel Macron. Ligne rouge franchie, déclarait l'ONU, dans l'enclave de la Ghouta. Et au-delà de la sémantique, des questions qui reviennent. Quand et pourquoi intervenir militairement et au nom de quels principes? Pour en débattre, l'ancien président de Médecins Sans Frontières, professeur à l'université de Manchester, il publie un livre passionnant, « Guerres humanitaires, point d'interrogation, mensonges et intox » aux éditions textuelles. Le docteur Ronnie Broman est notre invité. Bonjour Ronnie Broman.
Bonjour.
Et bienvenue, beaucoup de sujets à discuter avec vous. Mais d'abord, est-ce que l'expression « ligne rouge » a un sens pour vous ?
Non, pas pour moi, pas plus que pour quiconque, je crois. D'ailleurs, on commence à parler de ligne rose sur un mode dérisoire. On parle de bombardement chimique qui serait le point de non-retour, celui qui déclencherait une attaque française, américaine, enfin occidentale. Ces attaques chimiques ont eu lieu, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Le chlore a été utilisé, mais alors du coup, le chlore n'est plus tout à fait une arme chimique, puisque on décide que les armes chimiques qui sont susceptibles d'entraîner une attaque sont les armes létales. Or, le chlore n'est pas véritablement létal. Il entraîne des souffrances atroces, mais il n'est pas létal. C'est une arme de terreur, mais c'est pas une arme de mort, semble-t-il. Et du coup, on peut reculer encore une fois cette ligne rouge. Mais je pense que c'est une... Enfin, beaucoup de gens l'ont constaté, je le fais avec tous ceux qui l'ont déjà fait. Cette expression de ligne rouge, elle n'a pas de sens, ou elle n'a de sens que si elle est effectivement appliquée. Or, elle est devenue inapplicable.
Vous avez une longue expérience dans l'humanitaire et vous revenez sur plusieurs conflits importants de l'histoire contemporaine. On va en parler tout à l'heure, mais très simplement, faut-il intervenir en Syrie? On dit que les lignes rouges ont remplacé l'expression de devoir d'ingérence. Faut-il intervenir militairement?
Mais on intervient déjà militairement. Il y a des forces spéciales françaises en Syrie, il y a des soldats américains qui sont également au sol. Et par ailleurs, il y a à peu près tous les voisins de la Syrie qui ont déjà des troupes, des armements sur place. Donc aujourd'hui, la Syrie est le lieu de toutes les ingérences. Ce n'est pas le conflit que tout le monde observe passivement, c'est au contraire celui où, en plus des forces, disons, syriennes qui combattent, l'opposition armée contre les forces gouvernementales, il y a les voisins et puis il y a les super-grands.
Alors je reformule ma question, Ronnie Broman, faut-il intervenir pour permettre à des organisations humanitaires de faire leur métier, intervenir militairement à minima pour permettre ce travail-là?
Mais si c'était quelque chose d'envisageable, si cette formule avait quelque chose d'un minimum de réalisme, oui, sans doute, parce que ce serait une opération de sauvetage et on a bien besoin de cela. Simplement, ça ne veut rien dire dans ce contexte. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que des couloirs s'ouvrent, que des passages soient franchis et que de l'aide humanitaire soit distribuée? Personne n'est capable de les définir, surtout pas moi. Mais moi, je ne suis pas un expert militaire.
Non.
Je regarde autour de moi et je vois bien que c'est tout à fait impossible.
Il y a ce couloir humanitaire qui était réclamé par l'ONU et les ONG pour venir en aide aux populations civiles qui n'est pas respecté. Je vais donner la parole à un instant à Raphaël Luxman et à Natacha Polony, mais vous avez défini ce qu'un espace humanitaire. Non pas un couloir, mais un espace humanitaire.
Oui,
c'est quasiment une fiction théorique.
Disons, c'est l'espace humanitaire tel que je le définis moi, il s'applique pas vraiment dans cette situation. C'est un espace de liberté d'action humanitaire. Ça consiste simplement à s'assurer pour une organisation humanitaire qu'elle n'est pas juste la marionnette d'un pouvoir, mais qu'elle a accès à des populations, qu'elle peut vérifier ce que ces services, comment ces services sont utilisés, comment les biens qu'elle apporte sont employés. Et puis ça consiste à essayer de vérifier également si on n'est pas simplement là où le pouvoir local nous assigne d'être pour ses propres bénéfices, mais là où vraiment les besoins sont importants. En gros, mesurer l'espace humanitaire, cet espace virtuel, en parlant avec les gens, en vérifiant l'acheminement des secours, en pouvant se déplacer dans la région, consiste à voir si on n'est pas simplement la marionnette du pouvoir, mais si, disons, on sert plus la population que le pouvoir. Là, on n'est pas dans cette situation-là, puisque de toute façon, il n'y a pratiquement rien de possible. Pour ce qui est de Médecins Sans Frontières, par exemple, l'organisation achemine un peu d'argent, des secours médicaux, des médicaments, du matériel, mais enfin, nous n'avons absolument pas de garantie que tout ce que nous envoyons soit correctement utilisé, et puis de toute façon, nous n'avons pas d'équipe expatriée sur place.
Raphaël Luxman.
Oui, je pense qu'il y aura désormais deux contre-exemples absolus à une politique occidentale. Le premier contre-exemple, c'est celui de l'intervention en Irak, qui est un contre-exemple d'hubris, d'interventionnisme ou d'ingérence à tout va. Et il y a un deuxième contre-exemple désormais, qui est la Syrie, depuis ça. Parce que c'est vrai qu'on est présent, tout le monde est présent sur place, mais les coalitions occidentales pour lutter contre Daesh, et que ça fait 7 longues années que Bachar el-Assad, avec ses alliés russes et iraniens, a franchi toutes les lignes roses, rouges, vertes, jaunes ou en tout cas émises théoriquement par les puissances occidentales, et que là, la non-ingérence absolue, c'est-à-dire le refus de même tenir ses engagements, eh bien, a conduit à quoi ? À un cataclysme absolu, c'est-à-dire à 500 000 morts, à une population martyrisée, à des cohortes de réfugiés qui arrivent en Europe. Et donc, on a ces deux contre-exemples. Et c'est à l'intérieur de ces deux contre-exemples, à mon avis, qu'on doit essayer de définir, enfin, entre les deux, une politique offensive même.
Oui, je suis plutôt d'accord avec vous. Disons, au modèle irakien, j'ajouterais le modèle libyen, qui a été
sur lequel vous revenez longuement.
Notre Irak à nous, de fausses allégations qui justifient une entrée en guerre, et puis un désastre qui suit et dont on n'est pas capable de freiner le développement. Et entre les deux, la question est de savoir ce que pourrait être une guerre de sauvetage, c'est-à-dire, disons, le modèle actuel, le modèle contemporain d'une guerre juste, qui suppose que, d'une part, la guerre soit utilisée comme un dernier recours, avant il y a d'autres choses à faire, et puis que lorsque on entre en guerre, on a des objectifs qui sont réalistes, c'est-à-dire qu'on améliore la situation plutôt que de la détériorer.
Un bombardement en 2013 des bases d'où partent les avions qui font les bombardements chimiques, ou un bombardement même ponctuel.
Là, vous parlez de la Syrie.
sur les forces de Bachar el-Assad. Pourrait faire revenir dans le jeu des négociations, justement, des pays qui aujourd'hui en sont complètement exclus. Parce que la vérité, c'est que la France et les pays européens, par exemple, sont exclus du jeu des négociations.
C'est ce que j'ai cru lors des premières attaques chimiques en août 2013. Et c'est la raison pour laquelle, à titre personnel, j'avais soutenu la position de François Hollande et d'Obama, enfin qui s'est ensuite retiré, sans toutefois avoir de grandes illusions sur les transformations qu'une telle frappe, qui restait largement symbolique, pourrait entraîner. Et on en a eu malheureusement une démonstration plus que éloquente avec les 59 missiles, c'est pas rien tout de même, 59 missiles qu'a tiré l'armée américaine l'an dernier à l'initiative de Trump en réponse à l'utilisation de l'archimique.
Il n'y a pas derrière de l'offensive diplomatique.
Non, il n'y a rien.
Ce n'est pas seulement ça, Raphaël, et c'est bien le problème. Quand vous expliquez, Ronnie Broman, que finalement, quand vous vous référez au concept de guerre juste tel qu'il est défini par
Thomas d'Aquin,
Il définit 5 critères, l'autorité légale légitime, la cause juste, la force contenue proportionnée à l'attaque, la diplomatie qui doit précéder l'intervention et les réelles chances de succès. Et la question qu'il faut se poser avant d'intervenir, c'est celle aussi des réelles chances de succès.
Exactement.
Et le fait d'éviter d'empirer la situation, parce que si on revient par exemple à 2013 et au moment de cette fameuse intervention que n'a pas voulu poursuivre Barack Obama, il y a aujourd'hui des réflexions qui, hélas, ne peuvent évidemment pas être démontrées aujourd'hui, mais qui tendent à penser qu'en fait, il y aurait eu un début d'intervention, ou en tout cas la tentative, et que Barack Obama, l'armée américaine, se serait assez vite rendu compte que ces missiles préventifs qui servent à brouiller les appareils ennemis, en fait, avaient été totalement arrêtés par les Russes. Et donc, quand on ne peut pas lutter contre un ennemi, ça ne sert à rien d'aller se jeter dans quelque chose qui va devenir absolument inextricable et qui risque de faire plus de morts. C'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est absolument pas de la politique fiction.
C'est de la politique fiction. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on n'est pas intervenu et qu'on a 500 000 morts. La seule chose qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, Bachar el-Assad, Vladimir Poutine et Khamenei contrôlent le jeu et martyrisent la population syrienne. Ce qu'on sait, c'est que l'invasion de l'Irak était une catastrophe. Ça, on le sait. Quand on intervient, on n'est pas censé avoir nécessairement comme objectif dégommer Kadhafi, par exemple. On peut aussi avoir un objectif ponctuel dans un cadre d'offensive politique pour aboutir à quelque part.
Oui, mais il se trouve qu'on a dégommé Kadhafi, il se trouve également qu'on a dégommé Saddam Hussein, et qu'une partie de ce que nous voyons aujourd'hui peut être aussi analysée comme une conséquence de ça. C'est-à-dire qu'on a offert à Bachar el-Assad une alternative extrêmement simple. Ou bien il se cramponne au pouvoir, ou bien il est tué. Et face à une telle alternative, eh bien, il fait, c'était pas du tout une défense, vous imaginez, je ne vais pas certainement défendre ce type-là.
Non.
Mais dans cette alternative-là, évidemment, il se cramponne au pouvoir parce que, à l'évidence, il n'y a aucune porte de sortie.
Mais quand
je voudrais insister,
juste
un point sur la, disons, une question d'ordre éthique ou morale. Il me semble qu'on a trop tendance à opposer d'un côté une morale qui serait celle de l'intervention, de l'effort maximum pour mettre un terme à cette situation, ou de l'autre, l'indifférence cynique. Or, il ne me semble pas que c'est comme ça que ça se pose. Il y a, disons, une sorte de morale du devoir. Il faut faire quelque chose parce que, en soi, c'est bon. Ou bien une morale
exemple
des conséquences. Disons, dans le discours. Et les conséquences de ces interventions, elles sont absolument désastreuses lorsqu'il n'y a pas un plan à peu près certain, à la fois de contrôle de la violence et de mise en place d'un pouvoir. Or, si on intervenait aujourd'hui, quel pouvoir favoriserait-on pour le mettre à Damas? On ne le sait pas. Et donc, on n'est pas devant un scandale, on est devant un réel problème.
Mais personne, personne aujourd'hui dans le monde n'a comme ambition d'intervenir pour renvoyer Bachar el-Assad du pouvoir et démanteler son régime. Il n'y a pas cette idée-là. L'idée, c'est comment on fait pour obliger Bachar el-Assad à négocier, comment on fait pour lui montrer que tout n'est pas possible, qu'il ne pourra pas exterminer ses opposants jusqu'au dernier, ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il pense qu'avec le soutien des Russes, eh bien, et l'absence de l'Occident, ou l'évanescence de l'Occident, ou la peur de l'Occident, je ne sais pas, eh bien, il est absolument libre. Et donc là, il ne négociera pas, il ne fera aucun pas.
Raphaël, il n'y a pas d'absence de l'Occident ou d'évanescence de l'Occident. Il y a une situation beaucoup plus complexe. Au mois de février, il y a plus d'une centaine de mercenaires russes qui ont été tués par des frappes américaines en Syrie. C'est-à-dire que nous sommes à un point où des Russes et des Américains sont face à face. Pour l'instant, ce sont des mercenaires. C'est-à-dire que, dans ces cas-là, l'armée russe et Vladimir Poutine ne se sentent pas obligés de répliquer. Nous nous en réjouissons. Mais les choses sont complexes et dangereuses.
Mais ne me regardez pas comme ça.
Non, non, mais c'est
les choses
vrai,
sont complexes.
C'est vrai.
Je
ne vous dis pas que vous êtes un demeuré, mais je rejoins la vision de Ronnie Broman sur la question des difficultés de la morale dans cette affaire-là.
Ronnie Broman.
Il me semble que cette guerre est absolument atroce. C'est un cauchemar pour ceux qui la vivent et c'est extrêmement dur à supporter pour ceux qui en sont les spectateurs impuissants. Il me semble que, tout de même, on a connu d'autres situations, la guerre du Vietnam, la guerre d'Afghanistan, la guerre Irak-Iran, dans lesquelles on comptait les morts par centaines de milliers, dans lesquelles les bombardements massifs, les bombardements en nappe de haute altitude qui ne faisaient absolument aucun quartier, ni les centres médicaux, ni les les maisons, les biens civils, et tout cela se passait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes abreuvés d'images où on n'en sait plus. Écoutez, regardez la guerre d'Afghanistan. 20 millions d'habitants en Afghanistan, on estime qu'il y a eu à peu près 1 million de morts en 10 ans, 5 millions de réfugiés entre le Pakistan et l'Iran, et 10 millions... Oui, pardon, j'ai...
La guerre
menée par les soviétiques, qui a donné d'ailleurs les talibans, Al-Qaïda, et on exonère bien trop souvent les soviétiques de cette responsabilité-là, parce qu'on aime bien s'en prendre aux Américains, qu'on adore détester, évidemment, mais tout de même, ils ne sont pas seuls dans ce genre de catastrophe. Eh bien, les humanitaires entraient en Afghanistan, moi j'y suis allé à plusieurs reprises, de très nombreux humanitaires y sont allés, mais on a aidé des gens et on est content de l'avoir fait, il s'agit pas du tout de mépriser, de regarder cela de haut, mais qu'est-ce que cela a changé au profil de la guerre? Absolument rien, les souffrances n'ont pas été diminuées pour autant, ou alors d'un epsilon. Donc nous sommes quand même dans un cas relativement classique, il n'y a pas qu'une nouveauté radicale là-dedans. Il y a aussi quelque chose de tristement classique. Et lorsque les Américains bombardaient le Vietnam, enfin la plus grande guerre chimique de l'histoire, c'est au Vietnam qu'elle s'est passée. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui souffrent des bombardements chimiques de l'époque. De Gaulle a tenté, par les moyens qui étaient les siens, d'arrêter cela, en expliquant aux Américains qu'ils s'enfonçaient dans un bourbier qui avait aucun résultat à attendre de cela. Mais ça n'a absolument pas changé la configuration de cette guerre. On est donc dans une situation, de ce point de vue-là, qui est tristement classique.
Mais tristement classique. Raphaël Glucksmann.
Et ce qui est classique aussi, c'est que entre la perspective d'une guerre, d'un enrôlement de l'armée pour aller détrôner Bachar el-Assad, et le rien, eh bien, il y a tout un éventail de solutions qui s'appelle la politique. Et notamment une des solutions politiques, puisque Bachar el-Assad n'est resté au pouvoir que grâce au soutien de Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'en 2013-2014, s'il n'y a pas une intervention russe ensuite, Bachar el-Assad est proche de la chute. Eh bien, c'est de faire plus pression sur la Russie. C'est-à-dire que ce qui me semble ne pas être sur la table dans les discussions, c'est la capacité des Américains et des Européens à sanctionner les proches de Vladimir Poutine pour son rôle en Syrie, de telle sorte qu'on nous prenne au sérieux et que Bachar el-Assad accepte au moins d'aller discuter de quelque chose.
Ronnie Broman. Bon,
les sanctions, c'est toujours une action extrêmement difficile à mener. Mais par exemple, il y a des actions, disons, de la société civile qui seraient possibles aussi. Pensons à la Coupe du Monde de foot qui commence en juin. Pourquoi ne pas lancer un mouvement d'appel au boycott de la Coupe du Monde de foot? On sait que le boycott sportif est symboliquement très fort. Le boycott sportif est vraiment important en Afrique du Sud. C'est ça qui a été vraiment qui a affecté le plus les Sud-Africains. Moi, j'allais en Afrique du Sud à cette époque-là, et c'était les équipes de rugby et de foot à l'époque de l'apartheid. Et je voyais bien à quel point ce boycott-là était douloureux pour les blancs sud-africains et encourageant pour les noirs sud-africains. Eh bien, quelque chose de cet ordre-là pourrait être mené. Moi, j'ai pas les moyens de lancer une campagne de boycott, mais en tout cas, j'adhérerais volontiers à des organisations qui lancent cela. Ça me semblerait être une pression tout à fait salutaire sur.
Mais revenons
Poutine.
À la guerre, revenons à l'intervention militaire, puisque vous posez la question. Dans votre livre, y a-t-il des guerres humanitaires?
Si on part sur un mode descriptif, oui, il y a des guerres humanitaires, puisque trois guerres en tout cas, la guerre de Somalie en 92-93, qui était d'ailleurs au départ une intervention militaire qui a débouché sur une guerre, qui a amené les troupes américaines et leurs alliés à s'embourber dans la guerre interclanique de Somalie. Il y a eu la guerre du Kosovo, elle c'était une guerre d'emblée, et la guerre de Libye. Toutes les trois se réunissant les unes aux autres par le fait qu'elles étaient présentées comme des guerres de sauvetage. Donc de ce point de vue-là, une population civile était menacée de mort par la famine, par la guerre, par le massacre, et donc c'était une guerre de sauvetage. À ce titre, elles étaient donc considérées comme humanitaires. Toutes les trois ont été fondées sur des mensonges différents et proférés par des instances différentes, l'ONU dans un cas, les Américains dans l'autre, les Français dans un troisième. Donc pas de complotisme, pas de grand organisateur des hostilités derrière tout cela, mais une série d'énormes mensonges qui, à chaque fois, peut-être que d'ailleurs le Kosovo c'est beaucoup plus discutable.
C'est, je vais vous demander, parce que sur le Kosovo, c'est quoi le mensonge fondateur?
C'est par exemple le génocide, les centaines de milliers de morts qui étaient soit déjà à déplorer, soit en route. Quand l'essentiel des morts que l'on voyait au Kosovo étaient surtout des combattants avec un certain nombre de civils. Reste que le Kosovo est une situation de violence avec des menaces de mort extrêmement importantes. Et moi, personnellement, j'ai approuvé la guerre, l'entreprise du Kosovo. Et aujourd'hui encore, je maintiens que la situation consécutive à l'intervention reste malgré tout préférable, c'est une politique du moindre pire si l'on veut, reste préférable à celle qui prévalait avant. Donc malgré tout, il y a quand même des éléments de réussite, mais on voit que il y avait des objectifs très cernés, puisque un pouvoir existait et qu'il fallait mettre en place, c'était Loutcheka. Il n'a pas toute ma sympathie, je ne crois pas qu'il recueille beaucoup de sympathie ici, mais au moins, il pouvait assurer un minimum de stabilité, et le territoire était très limité, donc compatible avec un engagement raisonnable. Ça n'est pas du tout ce qu'on voit en Syrie, c'est pas ce qu'on voyait en Libye également. D'où le fait que le Kosovo est dans une situation intermédiaire et qu'on peut encore aujourd'hui l'approuver. Mais la Somalie et la Libye sont deux contre-exemples manifestes de guerres humanitaires qui aggravent une situation qu'elles prétendent réparer.
Natacha Polony.
Disons qu'il y a différents facteurs qui expliquent la façon dont on s'est lancé dans des guerres supposées humanitaires, qui sont à la fois des facteurs idéologiques, des facteurs géopolitiques, et avec à chaque fois une forme, on va dire, d'aveuglement total sur le fait que ce genre de terrain est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que l'idée que l'on se bat au nom du bien fait oublier totalement d'abord les intérêts que certains peuvent avoir et qui ne doivent jamais tout de même être oubliés. Et il y a une propension à construire des gentils et des méchants et des figures sataniques et des figures angéliques qui sont frappantes.
On a tous ça en tête.
Oui, bien sûr, mais ça a été... il suffit de se souvenir de la façon, par exemple, dont certains acteurs, que ce soit, je pense à Bernard-Henri Lévy, mais il n'est pas le seul, mais qui ont cette capacité à construire cette figure de gens qui sont des résistants face à des gens qui seraient forcément d'affreux salauds. Et simplement, je pense que l'idée de zone grise dans ce genre de domaine est absolument essentielle.
Il ne s'agit pas, pendant le cas de la Syrie, il ne s'agit pas de dire il y a des gentils face à des méchants. Il y a des gens qui sont dans une situation de victimes et des autres qui sont dans une situation de toute puissance. Et c'est pas une essence. On n'est pas en train de définir des essences, là. On est en train de parler de situation. Et de situation, ça veut pas dire que ceux qui souffrent sont bons. Ça veut dire qu'ils souffrent.
Mais
et donc, dans la zone grise, voilà.
Et juste ce que je voudrais dire, c'est que
je comprends bien qu'il y a un retour de bâton lié à l'échec des guerres dites humanitaires ou dites justes. J'aimerais bien que ce retour...
aux énormes bobards.
Ce qu'il faudrait éviter, c'est que ça débouche sur ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire l'indifférence totale. Et si on prend un exemple historique, celui de la Bosnie, on aboutit à des accords de Dayton qui sont médiocres et catastrophiques, mais qui sont mieux que la guerre. Et on aboutit comment ? Bah, c'est quand même au moment où il y a une frappe mineure sur les forces serbes qui assiégeaient Sarajevo.
Il y a une autre façon de le voir, je suis grosso modo d'accord avec vous, mais il y a une autre façon de le voir, c'est qu'on peut aussi considérer que l'intervention a eu lieu au moment où finalement les nouvelles lignes de partage de la Bosnie étaient dessinées par les différents groupes. Et que...
Mais quel regard, René Broman, portez-vous sur cette discussion qui avait lieu entre Natacha Polony et Raphaël Glucksmann?
Je voulais intervenir là-dessus, parce que si en effet je suis d'accord avec Raphaël Glucksmann lorsqu'il dit qu'en Syrie, plus personne ne tente de tracer une ligne de partage entre les bons et les méchants, parce que vraiment, on peinerait à voir qui. Il y a des bons, si j'ose dire, l'armée syrienne libre, il y a des forces démocratiques en Syrie, mais qui ont été totalement surclassées par les radicaux, par les djihadistes, et de fait, ce ne sont plus eux qui tiennent, qui ont la moindre possibilité d'initiative. Mais il faut quand même reconnaître que, par exemple, pour ce qui concerne la Libye et l'Irak, les deux contre-modèles dont vous parliez, il y a bien eu, rappelez-vous, en Irak, cette armée de Chalabi, avec son Conseil national de la résistance, surgit d'on ne sait où, qui vivait depuis 25 ans aux États-Unis, qui est devenu d'un seul coup le conseiller de la CIA et du Pentagone, et qui a été l'homme qui tirait les ficelles de l'intervention.
Qui était vraisemblablement un agent iranien, en plus.
Probablement un agent iranien. D'ailleurs, c'est évidemment les Iraniens qui ont bénéficié de cette intervention. Mais on croit rêver quand même quand on voit que tous ces gens extrêmement cultivés, extrêmement éduqués, extrêmement informés, achètent le premier bobard venu. Et il en est allé de même pour la Libye, avec ce Conseil national de transition, sorti lui aussi d'on sait où, qui d'un seul coup devenait l'interlocuteur privilégié, reçu à l'Élysée, considéré comme le seul représentant légitime de la Libye. Donc il y avait bien quelque chose d'autre qui sous-tendait cela. Alors ça reste à voir. L'envie pour Sarkozy d'entrer dans l'histoire comme celui qui avait renversé une dictature et installé une démocratie, ou en tout cas
et
un régime préférable.
Un
peut-être aussi des questions de chantage, parce qu'il y a tout de même une enquête en cours sur les financements de la campagne de Sarkozy. Sarkozy, et c'est peut-être tout ça n'est pas forcément étranger. On verra bien le résultat de l'instruction, une sorte de rattrapage politique des loupés du printemps arabe. Mais en tout cas, aucune raison qui concerne la situation concrète en Libye elle-même.
Vous êtes admirable, vous avez réussi à faire la synthèse entre Raphaël Glucksmann et Nadja Chapolini, mais...
C'est mon côté humanitaire.
Exactement, quand vous parlez de la Libye par exemple, ce que vous reprochez à l'intervention militaire, ce n'est pas l'intervention elle-même, c'est de ne pas avoir préparé l'après-guerre.
Ah non, 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 pas du tout. Il était clair que l'après-guerre était l'affaire des Libyens. C'était la condition sine qua non pour que la Ligue arabe et que l'ONU acceptent ça. No boots on the ground, hein, comme on disait, pas de soldats à terre. Donc ceux qui disent aujourd'hui que le chaos vient du fait que le service après-vente n'a pas été assuré, oublient deux choses. D'une part, que c'était la règle du jeu initiale, on ne change pas les règles simplement parce qu'on a perdu. Et la deuxième chose, c'est que on n'a jamais vu une force de l'ONU capable de construire un État, la confiance, une nation, etc. Ça n'existe pas, ça n'existe que dans les chimères, que dans les rêves, dans la pratique. Il y a une solution politique que les casques bleus peuvent éventuellement soutenir, mais ils ne peuvent pas la créer. Donc ce que je reproche, disons, à Sarkozy, mais aussi à la presse, enfin je me souviens de séances très dures ici, dans ces studios, où, quand par exemple j'exprimais mon opposition à cette guerre en mettant en doute les allégations venues de l'Élysée ou de Bernard-Henri Lévy, j'étais non pas questionné ou interviewé, mais interrogé, je comparaissais devant un tribunal.
Bon, vous avez vu pire et vous avez traversé.
Je pense qu'on y a besoin, oui, je me plains pas du tout, je suis pas la victime de tout ça. Il n'empêche que on aurait besoin, par exemple, d'une commission d'enquête parlementaire qui ferait le point, à l'instar des Britanniques, sur les guerres d'Irak et de Libye, rapport extrêmement sévère. Je rappelle que ce rapport a été sorti, il a été vaguement publié en France, totalement discrédité au nom du French bashing, hein, pour reprendre cette expression maintenant connue, parce qu'il s'en prenait aux Français. Oui, il s'en prenait aux Français, mais à juste titre. Eh bien, on aurait besoin de s'en prendre à nous-mêmes, de faire un retour sur expérience et une analyse critique de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je pense que la presse, en tout cas une bonne partie de la presse, aurait besoin de faire la même chose.
Il nous reste très peu de temps. Natacha Polony, Raphaël Glucksmann.
Simplement, oui, je suis totalement d'accord avec cette idée qu'il faut absolument tirer les leçons et que donc il faut aller au bout de la réflexion, parce qu'en effet, les médias en particulier ont un rôle à jouer. Ils jouent un rôle dans la mesure où l'émotion permet de mobiliser et de faire accepter une guerre.
C'est un amplificateur d'émotion.
Voilà, c'est un amplificateur, donc il faut s'en méfier. Il y a un peuple qui est victime et il y a autour des gens qui prennent en otage de tous les côtés. Il n'y a pas que les victimes et des bourreaux d'un seul côté, c'est ça qui complique la situation.
Un mot, Raphaël ?
Non, mais il y a des bourreaux principaux, et ces bourreaux principaux, ils ont le pouvoir en Syrie depuis des décennies, et ils ont conservé leur pouvoir que grâce à l'intervention extérieure, donc il y a déjà une invasion étrangère qui est celle de la Russie, et il ne faudrait pas que les bobards, les erreurs des guerres dites humanitaires conduisent l'opinion occidentale aujourd'hui à l'état dans lequel elle était avant, c'est-à-dire l'indifférence.
Le dernier mot, Ronny Brouwman, il vous revient.
De la politique et de la diplomatie, des pressions sur Poutine, je suis absolument d'accord, mais aussi un retour sur l'expérience de nos propres interventions et de nos propres errements.
Merci infiniment, Ronny Brouwman, d'avoir été notre invité. Guerres humanitaires, mensonges et intox, c'est une conversation avec Régis Mérand aux éditions Textuelles et c'est passionnant. Le grand face-à-face se termine. Natacha, Raphaël, je vous retrouve dimanche prochain. Merci à Ophélie Vivier qui a préparé cette émission, à la réalisation Claire Destacan, à la technique Élise Christophe. À suivre sur France Inter, Zoé Varier et sa journée particulière.